Radio Kapi.
À la une, ce calme apparent à Kisigari et Rugari dans le Nord Kivu, c'est après une nouvelle attaque cette semaine des présumés M23 contre les FARDC dans la zone. Cependant, la population reste en déplacement, craignant la présence présumée des assaillants dans leur milieu. Un élu de Rutshuru interpelle le gouvernement et l'Assemblée nationale face à cette énième attaque. L'Organisation internationale pour les migrations apporte son appui logistique et matériel à la campagne anti-Covid au poste frontalier Ruzizi 2 de Bukavu, campagne lancée jeudi conjointement avec le programme élargi de vaccination PEV et le programme national de l'hygiène aux frontières. La femme du Maniema connaît un sérieux problème d'accès aux soins de santé spécialisés, constat du coordonnateur des cliniques mobiles de Île Africa lors de sa récente mission dans la zone de santé de Kasongo. Pascal Abamungu est notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Un calme précaire est observé dans les groupements de Kisigari et Rugari, indiquent les sources coutumières locales. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 confirme la reprise, depuis jeudi, des positions des FARDC de Niesisi, Ngugo et Gikeri dans l'est des deux groupements à l'issue des opérations supervisées par le gouverneur Constant Ndima du Nord Kivu. Cependant, la population reste en déplacement du fait de la présence présumée des assaillants dans les environs, disent les autorités coutumières locales. Un député provincial élu de Rutshuru qui déplore cette cinquième attaque des présumés M23 contre les FARDC dans la zone exige une mobilisation à la fois du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour une stabilité dans ce territoire. Le député Emmanuel Ngarouye le dit au micro de Bernard Denyangui.
Depuis le mois d'octobre, les positions des FARDC et des éco-gardes ont déjà subi 5 attaques meurtrières sur leurs positions d'Ndiza, Chanzu, Runyoni, Bukima, Bikenke, Niesisi, Ngugo, Gikeri. Ces attaques successives sont à la base non seulement des morts, mais aussi l'exacerbation des conditions de vie déjà intenables au regard de plusieurs guerres successives sur cette entité depuis l'AFDEL. Et ce qui choque de plus, les dirigeants semblent pencher du côté des bourreaux, en gardant notamment le M23 sur son sol dans le PNV et seulement donc attendre de faire la défensive. Alors, au regard de cela, exigeons la requalification des relations diplomatiques de notre pays face à ses voisins. Nous exhortons les députés nationaux à interpeller le gouvernement pour sa légèreté dans ses relations diplomatiques et la sécurisation de la population pendant cet état de siège.
Par ailleurs, le parti politique Nouvel Élan exige l'instauration d'une réponse plus efficace contre l'insécurité persistante à Goma et dans toute la province du Nord Kivu. La fédération provinciale de ce parti, chère à l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, s'est ainsi exprimée à travers une déclaration officielle partagée avec les médias vendredi à Goma. La coordonnatrice provinciale de Nouvel Élan dit déplorer l'insécurité persistante malgré l'état de siège qui était comme le dernier espoir d'une paix durable dans la région. Madame Soumani Kayumba Mami le dit au micro de Bernard Denyangui.
C'est pour montrer notre ras-le-bol, nous, en tant que population du Nord Kivu. Parce qu'il n'y a pas de changement. Dernièrement ici, les jeunes Yves qui est mort, deux jours avant les jeunes Black S. Baloumé qui a été retrouvé dans le lac Kivu. Nous avons toujours des cas de kidnapping. Il y a aussi dans la ville de Beni, partout dans les territoires, il y a de l'insécurité qui a augmenté. Et ce n'est pas acceptable. Au moment où on avait proclamé l'état de siège, ça avait suscité en nous un état de soulagement parce qu'on croyait à la réussite de cet état de siège. Mais aujourd'hui, les autorités militaires ont montré leurs limites. Et c'est pourquoi nous voulons qu'il y ait peut-être d'autres stratégies. Il y a le ministre de l'Intérieur qui était ici récemment pour évaluer l'état de siège. On ne sait pas jusqu'à maintenant les solutions qu'ils ont trouvées parce que la population est au courant des racines du mal.
Dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira au sud Kivu, les rebelles burundais de Red Tabara, alliés aux miliciens Mai Mai, ont été délogés jeudi à Masango dans le groupement de Bijombo. C'est après des tirs intenses depuis mercredi dans ce village, des combats qui opposaient ces rebelles à la coalition Twiwaneo Ngumino, alliée aux éléments Imbonerakure, proches du régime au Burundi. Explication de Fiston Ngoma Mayabala.
Massango était encore habité par une communauté locale et considéré comme la zone de concentration et le fief des combattants Maïmaï alliés au roi de Tabara lorsqu'il a été attaqué. Des blessés évacués jeudi soir vers Bidjombo ont plongé les déplacés internes locaux dans la panique totale. Avant Massango, les belligérants burundais et leurs alliés congolais avaient marché sur les villages Rudefwe, Marimba, Majaga et Mashuba, où des sources locales dénoncent des cas de tueries, d'incendies de maisons, de pillages des produits agricoles dans les champs et des déplacements des populations civiles. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de la région des Hauts Plateaux Pacifiques Kararuka affirme que plusieurs dizaines de civils ont été tués sur le parcours des belligérants. Du côté de l'armée, les porte-parole des FRDC à Uvira, le lieutenant Marc Elongo, confirme les affrontements entre deux factions des groupes rebelles burundais sur le territoire congolais. La même source rassure, sans donner des détails, que l'armée s'attelle sur ces dossiers. Pour l'instant, les éléments burundais des rois de Tabara, d'Aloïse Nzabampema, alliés à certains miliciens Maïmaï, se sont retirés vers la forêt d'Itombwe dans le territoire de Mwenga. Tandis que les combattants Gumino Turwa Neodenya Musaraba, alliés à d'autres miliciens Maïmaï et aux Burundais Imbonerakure, contrôlent encore la zone de Massango et ses environs. D'Uvira, Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Restons dans le territoire d'Uvira. Les notables des villages touchés par les combats entre les factions rebelles burundais dans les hauts plateaux appellent les jeunes de la région à se désolidariser de tous ces groupes étrangers, ceci afin de laisser le champ libre au gouvernement congolais de sécuriser la zone de Massango et les environs. Ils déplorent la confusion qui règne dans la région autour des alliances entre ces groupes armés locaux et étrangers, ce qui expose la population civile locale. Justice. Le greffier d'exécution du tribunal de commerce de la Gombe, Jules Ngoy, a recouvré jeudi soir sa liberté provisoire selon un juge consulaire du TRICOM, tribunal de commerce. Le greffier a été mis sous mandat d'arrêt provisoire le samedi dernier dans l'affaire de prélèvement de la taxe RAM sur les téléphones mobiles et a été conduit à la prison centrale de Makala. Il était poursuivi par le parquet près le tribunal de commerce pour faux en écriture d'une sommation faite aux compagnies cellulaires de cesser tout prélèvement de la dite taxe. C'est un dossier à suivre. Je vous le disais en titre, au Sud Kivu, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, apporte un appui logistique et matériel à la campagne de vaccination anti-Covid au poste frontalier Ruzizi 2 de Bukavu. Ceci est contenu dans un communiqué de l'OIM publié cette semaine. Cette campagne a été lancée jeudi 27 janvier, conjointement avec le programme élargi de vaccination PEV et le programme national de l'hygiène aux frontières. D'autres détails avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Le communiqué indique d'abord que l'OIM a facilité le déploiement des services du programme élargi de vaccination au poste frontalier des Ruzizi 2 et fourni une assistance logistique en termes de tentes devant abriter les vaccinodromes, des kits de protection personnelle composés de masques, paires de gants et combinaisons. Elle a ensuite mis à la disposition des équipes en charge des vaccinations des tablettes et ordinateurs pour faciliter la transmission des données ainsi que des supports visuels de sensibilisation sur l'importance de la vaccination. Par ailleurs, des séances de renforcement des capacités techniques et opérationnelles en matière de vaccination ont été également organisées en faveur des prestataires de santé des PEV et du PNHF. La campagne cible principalement les migrants et voyageurs, des petits commerçants ainsi que les communautés transfrontalières. Enfin, l'OIM entend étendre son appui dans 6 autres points d'entrée du pays, souligne encore les communiqués.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Bonne nouvelle pour la population locale. La coopération technique allemande GIZ assure qu'elle a obtenu des financements du gouvernement de son pays ainsi que de l'initiative centrafricaine pour les forêts afin de continuer à travailler au Maniema pour 4 ans minimum. GIZ œuvre dans le Maniema dans le cadre de son projet intégré RED+, PIRED Maniema, à travers son programme de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts. Docteur Andreas Kalk, directeur résident de GIZ en RDC, l'a fait savoir hier à Radio Kapi, peu avant son retour à Kinshasa après une mission d'évaluation du déroulement de leur projet en province, travail qu'il juge positif. Docteur Andreas Kalk, directeur résident de la coopération allemande en RDC, explique au micro de Florence Kizalunga.
J'ai l'impression que la mise en œuvre du projet se déroule bien. L'objectif principal, c'est effectivement d'appuyer aux autorités congolaises de protéger les forêts et la biodiversité. On a aussi bien discuté les défis devant les autorités et la population. Un problème est certainement l'englavement partiel de la province. Je pense qu'il y a d'autres. Une chose, j'aimerais assurer, on a des financements du ministère de la Coopération d'Allemagne et de l'initiative centrale africaine pour les forêts, pour continuer notre travail pour une durée de minimum encore 4 ans. Si je regarde la situation ici avec la perspective du projet, c'est le problème du déboisement pour l'agriculture et aussi pour la préparation des repas à la maison. On vient de me décrire d'une manière très convaincante qu'il n'y a pas une alternative actuelle à l'utilisation du charbon de bois et je pense d'une manière ou d'une autre, il faut trouver une solution pour offrir à la population des alternatives qui sont payables.
Direction la province du Tanganyika. Les marchands et marchandes disent en avoir marre des tracasseries des services de l'État et des propriétaires des parcelles à Kongolo, 390 km au nord-ouest de Kalemie. En effet, les deux marchés de Kongolo sont implantés dans des parcelles des particuliers. Le comité des marchands et marchandes des marchés locaux appelle les autorités à doter la population d'un marché public devant répondre à ses besoins. Des détails avec François-Xavier Mibé.
L'ouverture d'un marché public de l'État. Les marchands et marchandes de Kongolo l'ont exprimé après avoir rencontré le ministre provincial de l'Intérieur. Une demande renouvelée au cours de la dernière visite de travail du ministre provincial, Dieudonné Kamona, effectuée en début de ce mois de janvier. Kongolo compte deux marchés. L'un fonctionne dans la passée de la poste et l'autre sur le terrain qui abrite le bâtiment de la SNCC. Le président de marché, Espérant Muyumba. Nous n'avons pas de toilettes et pourtant nous payons des taxes. Un mois de recettes bloquées suffit pour construire des toilettes. Il y a des gens qui ont déjà mis 20-30 ans dans ce marché. Mais ils doivent aller où? Parce que les propriétaires menacent. En principe, les marchés doivent avoir leur terrain propre. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Rappelons que le ministre provincial des infrastructures au Tanganyika a posé le 23 décembre 2019 au cours d'une mission de travail, la première pierre pour la construction d'un marché public à Kongolo dans les blocs Kizito. Et depuis, les travaux tardent à démarrer. Kalemie, François Djabemi, Radio Okapi.
Culture. Nous sommes tous handicapés. C'est le titre d'un nouveau film documentaire présenté hier pour la toute première fois à Kinshasa dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Projection suivie d'un débat. Cette activité a été organisée par l'agence 1000 Altitudes, constituée des professionnels de la communication et du marketing. Ce ciné-forum s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la situation des personnes vivant avec handicap. C'est comme le confirme ici Madame Ornella Mboukou, directrice générale de l'agence 1000 Altitude. Elle est au micro de Jean-Marc Matouaki Mofelele.
Une de nos aspirations dans cette campagne, c'est pouvoir sensibiliser aussi les personnes vivant avec handicap elles-mêmes, de ne pas pouvoir baisser les bras, de ne pas se mettre dans une position des personnes qu'on ne peut pas intégrer dans la société. Mais ils doivent se mettre dans la position des personnes ressources qui doivent contribuer au développement de la société. Le message que nous voulons aussi passer dans ces films, c'est un Congo inclusif, le Congo de l'inclusion. Je crois que aujourd'hui, notre Congo d'aujourd'hui est en train de porter un autre type d'habillement parce que nous avons même un ministère totalement dédié pour les personnes vivant avec handicap. C'est déjà un effort que le pays est en train de faire. Et 1000 Altitudes en tant qu'entreprise, en tant que structure, a aussi des obligations sociétales. Et ces films ou cette campagne de sensibilisation est notre manière de témoigner notre engagement sociétal.
Actualité Afrique Monde.
Après le coup d'État de lundi au Burkina Faso, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis vendredi en sommet extraordinaire. L'organisation a suspendu le pays de ses instances, demandé la libération du président Kabore ainsi que des autres responsables arrêtés. Comme pour le Mali et la Guinée, le Burkina Faso est à son tour suspendu de toutes les instances de la CEDEAO, une sorte de passage obligé de l'organisation sous-régionale après tout coup d'État qui veut toutefois rester prudente et ne pas se précipiter, confie un participant au sommet. Les passeports belges vont subir une petite révolution. Fini les bâtiments officiels ou historiques présents depuis 2008, c'est désormais le 9e art qui est à l'honneur. C'est la fusée lunaire de Tintin qui trône en deuxième de couverture des nouveaux passeports belges. Mais on y rencontre aussi le Schtroumpf explorateur sur une map monde, Lucky Luke au Far West, Blake et Mortimer à Londres ou encore Bull et Bill au ski, Franquin, Edgar, Jacobs, Hergé, Maurice, Roba ou Jean Van Ham font ainsi partie des auteurs dont le héros orne désormais les pages et les filigranes du passeport belge, nouvelle version, disponible à partir du 7 février prochain.
L'invité.
La femme du Maniema connaît un sérieux problème d'accès aux soins de santé spécialisés, notamment en gynécologie, constat fait par le coordonnateur des cliniques mobiles de Île Africa, Pascal Abamungu. C'était lors de sa récente mission de 20 jours dans la zone de santé de Kasongo, où les médecins spécialistes de Île Africa ont réparé 103 femmes ayant des fistules, prolapsus génitaux et autres maladies gynécologiques. Pascal Abamungu explique les causes et les pistes de solutions dans cet entretien avec Florence Kizalunga.
Monsieur Pascal Abamungu, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Dans le cadre du projet PRVBG, vous revenez de Kasongo où vous avez pu réparer les femmes ayant des fistules et autres maladies gynécologiques graves. Peut-on savoir le bilan de ces activités des 20 jours?
Oui, nous avons vraiment soigné 103 femmes qui avaient des problèmes gynécologiques, notamment les fistules, vésico-vaginales, recto-vaginales, les prolapsus génitaux et d'autres complications liées à l'accouchement. Mais nous avions vraiment constaté qu'il y a un engouement. Il y a beaucoup de mamans qu'on n'a pas pu soigner parce que certaines sont arrivées en retard quand nous avions déjà atteint notre cible. Voilà les bilans que nous avions eu.
Vous venez de réparer 103 femmes, selon vos dires. Et quelle est la situation générale de la femme du Maniema?
Ah, la situation générale de la femme du Maniema, je dirais que la femme du Maniema a un problème. La femme du Maniema a des difficultés à accéder aux soins spécialisés, notamment dans la filière de gynécologie. C'est ainsi que nous avons constaté que les mamans souffrent. Il y en a d'autres qui souffrent sans pour autant le dire, parce que comme vous le savez, la fistule, c'est une maladie de la discrimination. Il y a d'autres problèmes liés à des accouchements difficiles, parce que d'une manière, nous avons constaté que la plupart des mamans accouchent à domicile. Certaines mamans ne fréquentent pas les structures sanitaires, là où il y a des prestataires qualifiés pour être aidés. Et là, ça pose problème, elle va accoucher avec beaucoup de problèmes, ces problèmes vont demeurer jusqu'à ce qu'elle arrive à perdre le goût de la vie. Parce que souvent, une maman qui a une fistule et qui perd d'une manière incontrôlée des urines, longueur de la journée, ce qui est de la nuit, vraiment, elle se sent ne plus être digne. Et comme conséquence, les maris d'abord abandonnent et aussi dans la communauté, on ne l'accepte pas. On pense qu'il s'agit d'un mauvais sort qu'elle a contracté et pourtant c'est une maladie comme tant d'autres et c'est une maladie qui est curable.
Votre objectif était de réparer 100 femmes et vous avez réussi quand même à en réparer 103 femmes. Derrière vous, il y a une longue liste d'attentes. Que pensez-vous faire avec ces autres femmes?
Vraiment, ça a été vraiment une désolation pour nous de constater que nous avions arrivé à la fin de notre mission et qu'il y avait un engouement des mamans qui venaient. Certaines sont venues de très loin, de longues distances, mais nous espérons que nous allons vraiment atteindre toutes ces mamans qui sont restées sur la liste d'attente et nous allons tout faire pour aller les rencontrer dans leurs zones respectives. Parce que le projet prévoit que chaque zone puisse bénéficier d'une clinique mobile pour essayer un peu de rencontrer ces mamans vulnérables qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et d'accéder aux soins spécialisés. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Le projet a vraiment un beau programme pour arriver dans les coins et les recoins de la province afin d'atteindre la dernière maman qui présentera l'une de ces pathologies que nous venions de citer.
Monsieur Pascal, vous venez de nous dire que la situation de la femme du Maniema est catastrophique. Que faut-il faire pour éviter ces genres de problèmes gynécologiques?
Ah oui, vraiment la situation, ce que nous avons constaté, c'est un problème de la santé publique. Et nous demanderions, nous voudrions qu'il y ait un projet, un programme de maternité à moindre risque. Ceci si je vais dire, ce programme aura comme mission de pouvoir capaciter les prestataires de soins, de pouvoir aussi équiper les structures sanitaires, de pouvoir aussi faire une mobilisation communautaire, en fait d'amener les mamans à pouvoir s'approcher des structures sanitaires. Comme nous avons constaté que la plupart des mamans ont accouché à domicile. Et quand on accouche à domicile, il n'y a aucune assistance, c'est que tout peut se dérouler. Et parfois, certaines mamans perdent leur vie après avoir accouché à domicile. Nous suggérons qu'une maternité à moindre risque serait vraiment une solution durable. Et là, nous savons que notre gouvernement est en train de travailler, de faire ses efforts pour que toute personne ait accès à une santé vraiment saine. Donc, nous savons que bientôt, que la maman de Maniema aussi aura droit vraiment à des soins permanents, à des soins de qualité, à des soins spécialisés, et en fait qu'on puisse éviter tous ces problèmes que nous venons de citer.
Merci Pascal Abamungo. Merci.
Merci, journaliste.
Notre invité, le coordonnateur des cliniques mobiles de Île Africa, répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est la fin de ce journal, supervisé par Ben Kabamba. Coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de nous avoir suivis.